Donc j'espère que vous avez passé une bonne soirée hier à Lyon. Vous avez pu visiter les différents endroits historiques et gastronomiques de Lyon. On va passer donc cette journée ensemble avec plusieurs présentations à des thèmes qu'on a essayé de répartir dans différents ateliers. Alors, comme vous disiez, Monsieur Beccari, vous avez la possibilité de rester dans cet atelier, mais aussi d'autres personnes viendront pour d'autres présentations. Vous pouvez aussi faire votre menu en fonction de l'intérêt que vous portez aux différents thèmes qui vous sont présentés. Alors, c'est la première intervention, donc... Rapidement, je vais présenter Laura Steele Latour. Laura est doctorante au laboratoire Santé, Individu, Société. C'est un laboratoire interdisciplinaire qui est situé à l'ANEC à Lyon, qui regroupe différents types de chercheurs, des médecins, des psychologues, des philosophes, et qui s'intéresse en particulier au développement un peu spécifique des personnes en situation de handicap, avec des thèmes de recherche dont l'un des thèmes principaux, c'est celui de la décision en santé. Hein, les décisions en santé, c'est un thème qui mobilise un peu l'ensemble de ces recherches de cette équipe. Laura est en Xème année de thèse. Je dis X parce qu'elle va bien sûr présenter bientôt sa thèse. Elle nous dira peut-être la date, hein, comme ça elle vous invitera un peu à cette présentation. Elle a beaucoup de mérite pour travailler sa thèse parce qu'en même temps, elle travaille à l'hôpital du Vinatier à Lyon comme psychologue sur les thèmes justement où elle va intervenir. Et elle va essayer dans cette présentation, comme on en a parlé un peu hier, de faire le pont entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, c'est-à-dire elle a travaillé un petit peu sur l'ensemble de bases de données qui traitent du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Elle va essayer de faire le lien, comme elle le fait dans sa pratique, c'est-à-dire chercheur dans un laboratoire et aussi praticienne, clinicienne, dans un établissement. Je lui passe tout de suite la parole, Laura, et puis nous aurons à discuter après de cette intervention. Merci.
Bonjour. Merci d'abord à la FISAF. Et je suis bien contente de commencer ces ateliers aujourd'hui. Alors, j'espère que tout le monde me voit. J'ai l'impression d'être bien cachée. Je ne suis pas très grande, mais je n'ai pas pensé à commander une marche comme Nicolas Sarkozy. Donc aujourd'hui, on va commencer la journée en parlant du dépistage des troubles du spectre de l'autisme chez les enfants en déficience visuelle. Donc on va essayer de partir d'une définition de qu'est-ce que c'est les TSA, donc c'est la nouvelle appellation, et à partir de là, voir par rapport à la recherche dans la déficience visuelle, pourquoi on parle de TSA ou d'autisme pour les enfants en déficience visuelle, qu'est-ce que la recherche nous a montré. On va se poser la question, est-ce que c'est vraiment des TSA, l'autisme, ou quelque chose qui ressemble. Et puis on va parler des outils diagnostiques. Et puis, à la fin, je vais vous présenter une initiative régionale sur cette question. Donc, les troubles du spectre de l'autisme. Donc, c'est donc la nouvelle appellation qui va remplacer ce qu'on appelait jusqu'à présent, et toujours dans le DSM-4 et le CM10, les troubles envahissants du développement. Donc, les troubles de la communication, les troubles des interactions sociales et des comportements et des intérêts restreints. Donc, dans le DSM-5, qui est sorti aux États-Unis, mais pas encore traduit en français, ça va devenir donc des troubles du spectre de l'autisme, donc qui va être dans une nouvelle catégorie des troubles neurodéveloppementaux. Donc, ça prend en compte la notion de continuum, Donc, la variabilité dans l'expression des symptômes. Et donc, les critères diagnostiques sont la présence, dès la petite enfance, des troubles de la communication sociale. Donc, les troubles de la communication et les troubles de l'interaction sociale sont regroupés ensemble. Et dans une deuxième partie, des intérêts restreints et des comportements répétitifs. Et dans cette deuxième partie, c'est rajouté dans le DSM-5 des perturbations sensorielles. Donc, ce qu'on observe très fréquemment chez les personnes avec autisme, une sensibilité inhabituelle aux stimuli sensoriels avec une hypersensibilité ou une hyposensibilité aux stimuli. Voilà. Donc, pourquoi on parle aujourd'hui des TSA pour les enfants déficients visuels? Alors, dans les écrits par le passé, on peut voir que, historiquement, il y a eu plusieurs descriptions des troubles de la communication sociale chez les enfants aveugles. Alors, tout d'abord, on peut évoquer Diderot dans sa fameuse lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Donc, il parle déjà de l'absence de sentiments chez ces enfants-là, chez ces personnes-là. Ensuite, on peut citer Henri qui parle d'une sorte de désir de retrait relationnel de Fulcher qui décrit l'absence d'expression faciale adaptée. Ensuite, il y a eu une série d'auteurs d'inspiration psychanalytique qui ont décrit cette symptomatologie autistique chez des enfants déficients visuels. La plus célèbre, probablement, est Selma Freiberg, qui a étudié et qui a publié beaucoup d'études de cas. Et dans ces études de cas, elle fait souvent référence à cette symptomatologie autistique, avec des difficultés de la communication chez ces enfants-là, des difficultés à rentrer en relation avec l'autre. Donc elle, pour la citer, a dit, par exemple, d'un enfant aveugle, pardon, comme ses mains lui donnent une information appauvrie sur le monde, en dehors de son propre corps, le danger est que dans cette période précoce du développement du moi, la personnalité pourrait rester centrée dans les sensations du corps et que le lien avec un monde externe serait instable ou même absent. Donc, Selma Freiberg met cette symptomatologie autistique vraiment dans un risque ou une difficulté dans la structuration, dans la mise en place de la personnalité même. Donc, dans les recherches un peu plus récentes, ça part d'un constat clinique qui est que les comportements des jeunes enfants déficients visuels et des comportements des jeunes enfants autistes se ressemblent fortement. Donc on voit des mêmes types de comportements, des mêmes types de difficultés. Alors il y a quelques auteurs qui ont identifié un phénomène dans le développement de l'enfant déficient visuel, où il va y avoir une période de développement apparemment normale pendant la première année de la vie, et puis pendant la deuxième année de la vie, il va y avoir une période un peu critique entre 16 et 27 mois, où on va observer une sorte de stagnation ou même de régression développementale. Donc, où l'enfant va soit soudainement, soit progressivement perdre des compétences clés qu'il semblait avoir auparavant. Et il va perdre des compétences, surtout dans tout ce qui concerne vraiment la communication sociale, donc dans des situations d'attention conjointe, dans ses capacités de langage et dans sa capacité de communication. Donc, ces auteurs-là ont ont observé que ce phénomène-là de régression va concerner 31% des enfants avec une déficience visuelle profonde et 2% des enfants avec une déficience visuelle sévère. Donc, on voit qu'il y a une différence importante entre ces deux groupes d'enfants-là. Alors, les critères de ces groupes, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on utilise en France, il me semble. Mais alors, pour essayer de vous décrire, les enfants dans le groupe de déficience visuelle profonde ne pouvaient pas voir un objet qui était une boule de laine à 30 cm. Donc, ils ne pouvaient pas voir. Et dans la déficience visuelle sévère, ces enfants-là pouvaient voir. Enfin, voilà. Donc, ils avaient des restes visuels en ce qui concerne la perception de forme. Donc, voilà. Ce phénomène de régression développementale est important pour ces auteurs-là parce que, d'après eux, la présence de ce phénomène de régression dans la deuxième année de la vie va augmenter significativement le risque de développer l'autisme, des TSA. Il y aurait des facteurs de risque pour cette régression qui seraient donc, comme on voit, le niveau de vision, donc plus la déficience visuelle est profonde, plus il y a de risques de régression développementale pendant cette période critique de la deuxième année de la vie. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont la présence de lésions cérébraux, ainsi que des éléments, enfin des facteurs psychosociaux. Donc, il cite notamment la dépression parentale ou d'autres facteurs qui peuvent bousculer le système familial. Alors, quel type de trait autistique est-ce qu'on voit cité dans la recherche? Donc, je les ai listés là. Alors, bien sûr, on vient de voir que la présence d'un trait autistique ne suffit pas pour avoir un diagnostic d'autisme. C'est bien un syndrome, donc c'est une association de plusieurs types de symptômes. Mais on voit qu'ont été observées des stéréotypies, donc par la manipulation des objets, enfin, l'utilisation très ritualisée des objets. Il y a une étude spécifiquement sur les balancements, par exemple, qu'il y a des particularités du langage qui ont été observées dans certaines études, l'inversion des pronoms, la présence d'écolalie immédiate ou différée, et puis l'usage parfois inapproprié des questions, un langage un peu ritualisé. On a observé des comportements un peu de retrait social, donc un enfant qui va jouer plus en solitaire, qui va être en difficulté, comme on disait, d'être dans une situation d'attention conjointe, donc une situation de partage avec un autre autour d'un objet, autour d'un jouet par exemple. On va voir que les enfants vont avoir moins d'activités ludiques, qu'à la toute petite enfance, les bébés sont peu réactifs, il y a peu d'exploration manuelle spontanée, donc pas toujours beaucoup d'initiatives dans le jeu. Ont été observés qu'il y aurait moins de manifestations émotionnelles envers autrui ou une difficulté à exprimer ses émotions de manière adaptée et des difficultés à établir des relations avec ses pairs. Alors, ces études sont souvent critiquées On peut apporter certaines critiques, en tout cas. Alors, forcément, très souvent, les échantillons sont petits. Il n'y a pas énormément d'enfants aveugles, heureusement. Très souvent, dans les études, le niveau de déficience visuelle est assez hétérogène dans ces études. Donc, c'est difficile de comparer les enfants des enfants. Et des fois, même des tâches proposées dans les recherches vont même mettre des enfants déficients visuels en difficulté pour pouvoir montrer leurs capacités. C'est le cas, par exemple, pour certaines études concernant la théorie de l'esprit, où les expérimentateurs ont monté des situations de croyances erronées qu'ils ont essayé d'adapter à la déficience visuelle, mais comme ils sont voyants, ils font ça avec leur représentation de personnes voyantes. Il se trouve que des tâches n'étaient pas tellement adaptées à la déficience visuelle et même mettaient les enfants de déficience visuelle en difficulté. Alors, juste pour vous dire que selon les recherches, enfin les différentes recherches, la prévalence des TSA, des troubles du spectre autistique, dans la population déficient visuelle, serait entre 17% et 42%. Donc, c'est très variable selon les études. Et il y a d'autres études qui ont montré que finalement, des comportements de type autistique qu'on observe chez les enfants déficients visuels et des comportements des enfants autistes sans déficience visuelle ne sont pas exactement pareils. Il y a des auteurs qui ont relevé des différences cliniques dans les types de comportements. Alors, par exemple, chez les enfants avec une déficience visuelle, en dehors de la déficience visuelle, bien sûr, il y aurait moins de ces particularités sensorielles, donc de type hypersensibilité au bruit, hypersensibilité au goût, etc., qu'on retrouve très fréquemment chez les enfants avec TSA. Et chez les enfants déficients visuels, donc certains auteurs comme Hobson et comme Andrews ont observé que finalement des symptômes plus spécifiquement dans la relation avec autrui seraient moins sévères chez les enfants déficients visuels. Et que par contre, il y aurait plus dans ce groupe-là, de stéréotypes motrices et même de stéréotypes de langage à certains moments. Et l'idée est ressortie aussi que certains comportements de type autistique pourraient même être transitoires ou réversibles chez les enfants déficients visuels, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à la petite enfance en l'occurrence, il pourrait y avoir beaucoup de comportements qui ressemblent beaucoup à l'autisme. Et puis, en grandissant, l'enfant va développer d'autres capacités, va développer des compétences qui vont compenser la manque de vision, par exemple. Et on voit que, par exemple, les particularités du langage semblent s'estomper avec le temps, chez un certain nombre d'enfants, que les enfants arrivent progressivement, en grandissant, à rentrer dans des situations d'attention conjointe, donc ce qui était difficile pour certains à la petite enfance. Et on voit que la théorie de l'esprit, donc la capacité de penser les pensées des autres, ça prend plus de temps chez l'enfant déficient visuel, mais dans un certain nombre de cas, l'enfant va y arriver à un certain moment et par d'autres moyens qu'un enfant sans déficience visuelle. Dans l'étude de Hobson, donc, qui a étudié un groupe de 8 enfants, 8 garçons déficients visuels, il avait donné un diagnostic d'autisme à ces 8 garçons et 8 ans plus tard, il a retravaillé sur le même groupe d'enfants. Et 8 ans plus tard, il a observé que 7 des 8 enfants ne satisfaisaient plus les critères diagnostiques d'autisme à ce moment-là. Donc, lui, il a expliqué ça par leur développement du langage. Donc, il a dit qu'ils avaient développé suffisamment, un niveau de langage suffisamment sophistiqué pour pouvoir compenser certaines déficiences. Et donc, ces enfants-là avaient beaucoup moins de difficultés, notamment dans les relations interpersonnelles. Donc, lui parle d'autisme réversible pour ces enfants-là. Oui. C'est pas spécifié dans son étude. Oui, on ne sait pas s'ils ont tous suivi le même. Enfin, a priori, puisque c'est pas spécifié, ils n'ont pas tous suivi un même programme spécifique, mais c'est une bonne question. Oui. Donc, on peut se poser la question, finalement, est-ce que c'est vraiment de l'autisme ou est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à l'autisme ? Donc, en anglais, c'est plus court, on dit « autism-like ». C'est l'argumentation de Andrews et Weaver et de René Pri. Donc, c'est de dire que, de toute façon, la trajectoire développementale de l'enfant aveugle est marquée par des retards multiples dans plusieurs domaines et que ces retards, tous associés, peuvent mimer la présence d'un trouble du spectre d'autisme. Donc, les retards, et puis associés aussi aux stéréotypes motrices, par exemple. Donc, qu'il y aurait des mêmes types de signes cliniques, au moins à un moment donné, mais qu'il y aurait une origine différente. Alors, il y a des auteurs comme Gens et Gens et Salt qui ont essayé de spécifier dans la population d'enfants déficients visuels des comportements plus spécifiques des enfants déficients visuels avec de l'autisme, avec des TSA, et des comportements qui relèveraient du développement original des enfants déficients visuels. Donc, alors, ce qui manque dans ces observations-là, c'est des vraies études cliniques, vraiment de la recherche appliquée dans ce champ-là. Mais pour vous donner des exemples, ils vont dire que, par exemple, un enfant déficient visuel va répondre à son prénom, va être intéressé à ce que fait l'autre, va aller vers d'autres enfants pour participer à leur jeu. Il va rechercher il va rechercher l'adulte s'il se fait mal, par exemple, ou s'il n'est pas content. Alors qu'un enfant déficient visuel qui a des troubles du spectre de l'autisme va pas être aussi dans la recherche de contact avec l'autre. Il va pas forcément répondre à son prénom. Il va pas aller chercher des interactions sociales. Il va pas au moins partager des jeux avec d'autres. Il va être plus anxieux dans des situations sociales, par exemple. Il va être plus ritualisé dans ses comportements. Donc, ces auteurs-là utilisent leurs observations cliniques pour aller vers quelque chose d'un diagnostic différentiel au sein de la population déficiente visuelle. Donc, ça nous amène à nous poser la question du diagnostic des troubles du spectre de l'autisme chez les enfants déficients visuels. Donc, on voit bien qu'on a besoin de mieux comprendre ces signes plus spécifiques des troubles du spectre de l'autisme chez les enfants déficients visuels. Donc, qu'est-ce qui relève d'une adaptation normale à la déficience visuelle, normale entre guillemets, et qu'est-ce qui a une difficulté plus spécifique qui pourrait être liée à un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on a besoin de renforcer les études dans la population. C'est dans ce cadre-là que moi, j'effectue ma thèse de recherche. Donc, moi, je vais essayer d'une analyse des films de famille, donc de comparer des comportements très précoces de deux groupes d'enfants, un groupe d'enfants déficients visuels qui se développent normalement, encore une fois entre guillemets, normalement pour un enfant déficient visuel, et un groupe d'enfants qui se développent en ayant des troubles du spectre d'autisme. Donc, pour voir si, à la petite enfance, on peut repérer des signes très précoces des troubles du spectre de l'autisme. Donc, d'une part, pour repérer des signes de risque, d'autre part, pour repérer des signes de compétences vicariantes dans le groupe d'enfants qui sont développés de manière normale. Donc, qu'ils n'ont pas eu l'autisme? Est-ce qu'il y a des compétences vicariantes chez ce groupe-là? Donc, pour les services de diagnostic de l'autisme, la difficulté, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui vraiment des outils de diagnostic des TSA spécifiquement pour la déficience visuelle. Tous les outils qui existent sont prévus pour les enfants qui voient et beaucoup des items sont centrés sur la vision, donc le contact oculaire, etc. Voilà. Donc, certains auteurs ont travaillé sur les adaptations des échelles qui existent déjà, donc adaptation de la dose, adaptation de la CARS, par exemple. D'autres auteurs ont travaillé sur des nouveaux outils. Donc, on va aller rapidement, parce qu'on m'a dit que j'ai plus de temps. Donc, il y a eu une première étude sur un outil qui s'appelle la VIS, donc l'échelle de la communication sociale pour la déficience visuelle. Donc, dans une première étude, il y a eu observé 23 enfants dans des situations de jeu et on a noté donc, la présence ou absence de certains comportements. Donc, le sourire social, par exemple, le fait qu'il apprécie le contact, qu'il attire l'attention. Donc, toute une série de comportements ont été notés. Donc, ils ont trouvé qu'il y avait une bonne corrélation avec des scores de la CARS. Donc, qui mesure l'autisme. Alors, suite à cette étude, la même équipe, donc c'est une équipe à Londres, travaille actuellement, donc ils poussent ça un peu plus loin, ils essayent de créer un équivalent à l'ADOS, mais pour la déficience visuelle, donc, qui va s'appeler la VISCOS, donc une échelle de la communication sociale, enfin une échelle d'observation. Et donc, ils sont actuellement en train d'étudier une centaine d'enfants qui sont âgés de 1 à 3 ans. Donc, ils étudient d'une part la trajectoire du développement en ce qui concerne notamment la communication sociale. Et ils essaient donc de créer une sorte de batterie de thèse qui ressemble à l'ADOS. pour travailler sur le diagnostic différentiel. Alors, la même équipe, enfin, d'autres auteurs, sont en train de travailler sur un entretien parental qui ressemble un petit peu à l'ADI, du coup, pour essayer de voir avec les parents des comportements socio-communicatifs qui ne sont pas liés à la vision, à la petite enfance des enfants déficients visuels. Donc, la première étude est en cours pour les enfants âgés de 10 à 40 mois. Voilà, je passe rapidement. Hein. Donc, se pose la question, ben, je lance un peu la question aujourd'hui, est-ce qu'on est sur l'idée avec un enfant déficient visuel qui pourrait avoir une sorte de diagnostic temporaire de l'autisme ou des TSA, et est-ce que ça pourrait être utile pour favoriser l'accès à ces enfants à une prise en charge adaptée, une prise en charge qui pourrait ressembler à ce qu'on propose aux enfants autistes classiques. Voilà, est-ce que ça peut être intéressant par rapport à l'information qu'on peut donner aux parents, au soutien parental, aux guidances voilà. Mais en même temps, en gardant la possibilité de laisser la place aux compétences vicariantes des enfants déficients visuels en ce qui concerne, par exemple, le développement du langage et le développement de d'autres compétences. Et de reconnaître aussi qu'il pourrait y avoir des origines multiples des troubles de type autistique chez ces enfants-là. Certains passagers, certains qui vont continuer. Voilà. Très rapidement, parce qu'en plus, vous pouvez aussi aller voir le poster qui est affiché à côté. Donc, nous avons un groupe de travail en Rhône-Alpes qui travaille sur cette question-là, où on essaie de partager donc, des connaissances pour essayer d'avancer plus dans le travail de diagnostic des TSA chez les enfants déficients visuels et de travailler sur l'accompagnement de ces enfants-là. Voilà.
Merci, Laura, pour cette intervention. Alors, bien sûr, vous aurez dans les comptes rendus de ce congrès les éléments un peu bibliographiques à votre disposition. Donc, merci, Laura, pour cette présentation. Je profite de cette occasion, comme vous l'avez dit, Laura, de vous inviter à regarder un peu les posters, en particulier aussi celui de ce groupe d'études, mais aussi le poster qui répond à certaines questions qu'a soulevées Laura, le poster d'Aurélie Bon, qui est orthoptiste. Est-ce que, Aurélie, en une minute, deux minutes, vous pouvez nous parler de ce poster ?
Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Aurélie Bon, orthoptiste au CAMS pour déficients visuels de Villeurbanne. Donc, en effet, par rapport à ce qu'a dit Laura, j'ai essayé d'étudier l'un des aspects des troubles du spectre autistique que l'on retrouve ou non chez l'enfant déficient visuel par rapport à ses particularités d'intégration sensorielle, donc à savoir auditive et visuelle. Et une idée qui fait foi dans le milieu est que chez les enfants autistes, il nécessite un ralentissement de ses entrées pour une meilleure intégration et j'ai essayé de voir si ça se retrouvait chez les enfants déficients visuels. Voilà.
Merci Aurélie de cette présentation. Et puis également ce dont parlait Laura à un moment donné, ce qu'on a travaillé avec René Prix, qui est professeur de psychologie et qui fait un travail clinique important sur une cohorte d'enfants autistes à Montpellier. On va essayer de travailler en particulier par rapport à la question qui a été posée sur des enfants déficients visuels qui présentent des troubles autistiques réversibles. C'est-à-dire qu'on a dans notre travail clinique, autant René que moi aussi ou que d'autres partenaires, constaté que certains enfants, comme le dit Hobson, qui on travaille aussi en commun avec lui, certains enfants déficients visuels présentent, après quelques années, ne présentent plus ces troubles sur le registre autistique. Donc on va essayer de créer une cohorte, en particulier de ces enfants déficients visuels, qui sont dans vos établissements, hein, qui sont dans vos structures, et qui, quand on les regarde à l'âge où parlait Laura, présentait justement ce diagnostic, même s'il n'a pas été posé peut-être à l'époque, et qui ont été réversibles. Alors, ce qui voudrait dire que l'un des axes différentiels, c'est que ça peut être réversible chez les déficients visuels, alors que ça l'est moins chez les sujets voyants. Enfin, ça reste à prouver encore, hein, ça reste à travailler, mais avec Hobson, René Prix, puis aussi, je parlerai des travaux d'Anna Galliano, Anna Ella, qui a travaillé sur, en particulier, cette dimension du langage, hein, et on a fait un article en particulier avec René Prix, avec d'autres, dans la revue Enfance, hein, dans la revue Enfance, qui on précise un petit peu ces choses-là, et le dernier revue de l'enfance, je pourrais vous la mettre à votre disposition si vous le souhaitez. Maintenant, je me retourne vers vous pour quelques moments d'échange, hein, quelques moments d'échange par rapport à ce que nous a dit Laura, ou de questions, ou de remarques. Oui.
Sur l'annonce de ce diagnostic temporaire au niveau des familles. Enfin, j'entends bien la notion de diagnostic temporaire, mais en même temps, vous décrivez une symptomatologie qui est proche des TSA, qui peut avoir son avantage à être effectivement perçue comme telle par rapport aux méthodes éducatives et aux prises en compte des manifestations. Mais néanmoins, ça me pose la question de l'accompagnement, effectivement, au niveau des familles et notamment des parents. Sur cette question de double diagnostic et d'un diagnostic qui va être suspendu à une évolution. Bon, ça me fait peur.
Voilà. Oui, c'est juste mais une remarque. C'est très complexe et ça pose beaucoup de questions. C'est pour ça que je disais vraiment, je lance un peu le débat, mais ça pose beaucoup de questions, même presque dans l'autre sens. Pour les enfants, il y a aussi un risque de masquage diagnostique, de dire que c'est juste la déficience visuelle. Alors qu'en fait, en réalité, aussi, beaucoup d'enfants pour qui ce n'est pas réversible et qui vont continuer à avoir des troubles autistiques qui sont très handicapants dans la vie. Et que c'est important, il pourrait avoir un intérêt de poser à un moment ce diagnostic. Parce qu'on ne sait pas justement si l'enfant va sortir, ou avoir une amélioration. Même dans l'étude d'Hobson, les enfants avaient encore quelques traits autistiques. Oui. C'était pas non plus le miracle, ils sortent de l'autisme. C'était une amélioration dans certaines caractéristiques. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour les familles. Effectivement, pour les familles, ça peut être compliqué. En même temps, ça demande un accompagnement des familles, certes. Mm-hmm. Mais pour les familles qui ont un enfant qui est en grande difficulté à ce moment-là, la petite enfance, ça peut aussi les aider. Ça peut leur donner une piste. Hein, donc, je suis d'accord qu'il faut l'accompagner. Hein.
Oui, alors moi, donc Christine Michon, je dirige deux établissements pour des enfants sourds avec handicap associé et des enfants sourds aveugles, sourds malvoyants. Alors évidemment, ça me parle beaucoup puisque dans l'établissement d'enfants sourds aveugles, on en a beaucoup qui présentent toutes les caractéristiques en termes de symptomatologie d'enfants autistes, avec des stéréotypies, avec une difficulté d'accès au langage, avec des difficultés d'attention conjointe, etc. Que globalement, on met sur le compte de la double déficience sensorielle, et même quelquefois plus, puisqu'on a des enfants qui sont atteints du syndrome charge et qui, en plus de la double déficience sensorielle visuelle et auditive, ont des problèmes d'équilibre, hein, puisque, des problèmes olfactifs. Moi, j'aimerais prendre le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire, est-ce que la question du diagnostic, finalement, l'étiquetage, c'est, à mon point de vue, jamais très très bon, mais ça, c'est mon point de vue à moi, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas rechercher dans cette symptomatologie un peu différentielle de ce qui serait plus de la déficience visuelle et ce qui serait plus de l'autisme, de voir comment précocement on peut aider l'enfant à compenser.
Oui.
ou comment on peut donner d'autres formes de signification à ce qui apparaît comme ça à première vue comme des stéréotypies. Je pense par exemple au balancement, qui ont une fonction kinesthésique chez un enfant déficient visuel, par exemple. Ce qui est peut-être le cas aussi d'ailleurs chez l'autisme, enfin chez l'enfant autiste. Mais voilà, et comment est-ce qu'on peut, sur le plan éducatif, thérapeutique, arriver à compenser ça? Et il me semble que ce serait intéressant de faire des recherches dans ce sens-là, plutôt que de chercher à poser un diagnostic qui risque d'être invalidant, à la fois pour les parents et pour l'enfant. Invalidant pourquoi? Parce que quand on dit à des parents, votre enfant, il est autiste, alors bon, peut-être ce sera que temporaire, mais autiste, c'est lourd comme diagnostic. Enfin, et comment est-ce qu'on se sort de là avec un enfant qui a déjà des difficultés de communication ou d'attention conjointe? Oui. Comment est-ce que les parents, avec un diagnostic de ce type-là, avec une représentation d'enfermement, vont continuer à rester dans l'échange et la communication avec leur enfant, alors qu'on sait que c'est absolument indispensable si on veut que l'attention conjointe se mette en place. Enfin, voilà,
est-ce que c'est le diagnostic en soi qui est essentiel? Enfin, je ne sais pas. Il peut y avoir des avantages de poser un diagnostic aussi sur le plan administratif, pour l'orientation de l'enfant, par exemple, par rapport au type de prise en charge qu'on peut proposer. Mais par rapport à ce que vous disiez pour les parents qui vont avoir peut-être des représentations peut-être un peu négatives de ce que c'est des troubles du spectre de l'autisme, je ne sais pas, peut-être aussi, ils pourraient trouver du soutien dans les associations de parents d'enfants avec autisme aussi. Ils peuvent trouver aussi des pistes de comment être en interaction avec leur enfant, comment quelles activités mettre en place, etc. Enfin, je ne sais pas, il pourrait y avoir peut-être un risque pour les familles, mais peut-être aussi des points positifs. Comment?
Pour les professionnels,
bien sûr.
Oui.
Oui. Bien, je suis tenu toujours un peu par ce temps. Merci encore, Laura. Je vous propose une pause de quelques minutes pour permettre au prochain intervenant de poser le PowerPoint. Donc on va se donner, on reprend à 10h si vous voulez bien, le temps d'une cigarette ou d'une dizaine de minutes. Je vous laisse un peu les flyers si ça vous intéresse sur le... Je ne sais pas, je vous les mets là, si vous êtes intéressé. Ça va?